15h38.
Quelle est la situation actuelle donc en Syrie? Quelles sont les forces en puissance, leur poids actuellement?
Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où la Syrie est fragmentée au niveau territorial. Au sud du pays, l'opposition et le régime se partagent le contrôle territorial. La Jordanie a fermé les frontières depuis 9 mois déjà à peu près, ou 8 mois. Même s'il y a des accrochages encore, même si parfois il y a des combats, mais il n'y a pas de grand changement au niveau du contrôle territorial et au niveau des dynamiques du conflit dans cette région. Daesh a 2 enclaves, a 2 poches dans la région, mais pour l'instant, ces 2 poches sont encerclées par l'opposition. Et il y a des accrochages également entre cette opposition-là, qu'elle soit sous l'armée libre ou sous des groupes islamistes, mais non djihadistes, donc contre Daesh. Il y a des accrochages. Maintenant, il y a le centre du pays, cet axe qui va de Damas vers Homs et Hama, vers la frontière libanaise. Sur cet axe-là, c'est plutôt les Iraniens et le Hezbollah qui contrôlent véritablement la situation. Pour eux, c'est stratégique parce que c'est proche de la frontière libanaise, parce que c'est important pour la liberté de mouvement du Hezbollah, parce que les Iraniens craignent de plus en plus un changement dans l'attitude américaine qui, pour l'instant, a été très timide par rapport à la Syrie. Obama était surtout concerné par les négociations nucléaires avec l'Iran, donc il ne voulait pas les affronter en Syrie. En plus, il coopérait indirectement avec eux en Irak à travers le gouvernement de Bagdad, qui est l'allié des deux, contre Daesh. Les Iraniens maintenant craignent qu'avec Trump, cela peut changer, puisque Trump, de toute façon, est très hostile face aux Iraniens, au moins dans ses déclarations. Donc, ils veulent s'imposer dans la capitale Damas, autour de cette capitale vers la frontière libanaise, puis sur tout l'axe très important, très stratégique, Damas, Homs, Hama, où Hezbollah et les milices irakiennes et les officiers iraniens sont assez présents et où ils négocient parfois avec des groupes de l'opposition leur départ avec leur famille et avec la population civile de localités. On peut évoquer Zabadani, on peut évoquer Mardamiye, on peut évoquer Daraya, plusieurs villages dans la région de Kalamoun, plusieurs quartiers dans le sud de Damas, et puis récemment, ou hier en fait, le quartier Wahar al-Homs. Donc dans cette région, les Iraniens sont accusés par l'opposition de vouloir aussi changer la démographie sunnite, et non seulement de contrôler et de s'imposer comme acteur incontournable. Et puis il y a le littoral syrien qui est contrôlé par le régime, mais pas directement, puisqu'il y a là-bas des milices, des forces paramilitaires pro-régime, des princes de guerre, des seigneurs de guerre, qui parfois sont rivaux, qui paradoxalement affaiblissent le contrôle du régime, même s'ils lui sont fidèles. Et il y a les Russes là-bas, avec leurs 2 grandes bases militaires, base navale à Tartous, base aérienne à Hmeymim. Ils sont l'acteur qui est le plus puissant, le plus important dans cette région-là. Le nord du pays, je pense que là, qu'on parle du nord ou du nord-est surtout, on est dans la zone où il y a le plus de paramètres inconnus, où il y a le plus d'incertitudes. Parce qu'à la fois, il y a des milices kurdes, soutenues par les Américains, qui se battent contre Daesh et qui coopèrent avec le régime sous demande russe de temps à autre. Il y a le régime avec Hezbollah qui essaye aussi d'avancer vers Raqqa, donc de se montrer acteur principal dans la lutte contre Daesh, soutenu évidemment par les Russes. Et puis il y a l'opposition syrienne, l'armée libre et certaines brigades islamistes, soutenues par l'armée turque, qui progressent également sur le terrain, qui ont saisi une ville clé dans la lutte contre Daesh, c'est-à-dire Al-Bab, et qui veulent être les seuls à faire la course vers Raqqa, d'où les négociations entre Turcs et Américains pour que les Américains permettent aux Turcs d'être l'élément ou l'acteur principal dans la lutte contre Daesh et donc de laisser tomber les Kurdes que Ankara, les milices kurdes, je veux dire, que Ankara considère comme terroristes ou comme un danger à ses frontières, sur ses frontières. Et d'ailleurs, une des raisons des opérations militaires turques, c'était pas seulement la lutte contre Daesh, mais aussi d'empêcher qu'une continuité territoriale permettre aux milices kurdes une autonomie dans le nord, entre les cantons de Afrin, Kobani et Hasaké ou Jazira à l'est, au nord-est du pays. Il y a également le nord-ouest, c'est-à-dire la région de Idlib, qui est une zone contrôlée par l'opposition pour le moment, une zone vers laquelle ont été déportés des civils, et cela est un crime de guerre. Les accords qui ont été parfois avec une bénédiction internationale et onusienne sont, selon le droit international, des crimes de guerre. Déporter une population, le déplacement forcé, par exemple, de la population des quartiers est d'Alep vers Idlib ou de plusieurs localités autour de Damas vers Idlib, est un crime de guerre. Et ce qui fait que la population, la démographie à Idlib aujourd'hui est très grande, avec tous ceux qui ont été intérieurement déplacés en Syrie. Puis il y a une décomposition et une recomposition de la scène militaire, disons, de l'opposition, avec un clivage entre le front al-Nusra ou le front Fath al-Sham, l'ancien al-Nusra, qui a réussi à attirer vers lui plusieurs groupes de l'opposition, et entre Ahrar al-Sham, qui s'est affaibli à cause de cela, mais qui a aussi essayer d'attirer vers lui des groupes, d'autres groupes de l'opposition. Cette décomposition-recomposition peut être explosive si jamais il y a un affrontement entre les deux camps. Le front al-Nusra, qualifié de terroriste par les Nations Unies, a voulu se montrer capable de contrôler cette région-là et il veut attirer les autres groupes de l'opposition pour se protéger aussi. En même temps, Ahrar al-Sham, qui sont des alliés de la Turquie, surtout, se sentent dans l'obligation de se démarquer un peu. Donc, il y a tous les débats sur que faire avec le front al-Nusra, s'il est qualifié de terroriste, est-ce que cela va légitimiser ou légitimer une opération militaire internationale contre le front ou pas, pro-négociation avec les Russes ou contre. Tout cela fait une recomposition de la scène ou des forces combattantes contre Assad dans cette zone-là, qui reste la cible de raids aériens, bien que les négociations se tiennent à Genève, qu'il y a des pourparlers, mais les bombardements sur cette zone-là se poursuivent par l'armée russe et par l'armée du régime Assad. L'est du pays est le territoire contrôlé par Daesh, autour du fleuve l'Euphrate, Raqqa, Deir Zour, avec des zones désertiques peu peuplées. Des combattants sont à cheval entre l'Irak et la Syrie, puisque ça mène jusqu'à la frontière irakienne. Et évidemment, avec la bataille de Mossoul aujourd'hui, avec les raids aériens américains qui se poursuivent, l'État islamique est sous pression militaire très importante. Il est également avec moins de ressources, parce qu'il arrive à moins vendre son pétrole, parce qu'il a moins de rançons maintenant, puisqu'il enlève moins d'étrangers. Les étrangers n'osent plus aller dans la région, étrangers entre guillemets, je parle notamment d'occidentaux. Il impose toujours des impôts, il a probablement des réserves, mais c'est vrai, c'est sûr qu'il est en déclin, et je pense que ce déclin va se poursuivre, sans pour autant considérer, à mon avis, que la lutte contre Daesh se gagne seulement militairement. Daesh va être battu militairement, on va voir par qui, quelles seront les conditions, les termes, les alliances en Irak comme en Syrie. Mais dans les deux cas, et notamment en Syrie, sans une solution politique et sans un minimum de justice, sans un nouveau consensus politique syrien, qui pourrait construire une majorité politique, ni Assad ni Daesh, ce fameux Nini, est indispensable pour gagner la guerre contre Daesh. Sinon, comme Daesh a émergé après Al-Qaïda de Zarqawi en Irak, une autre forme de Daesh pourrait émerger en Irak comme en Syrie, comme dans d'autres lieux dans la région, tant qu'il n'y a pas une véritable transition politique et tant qu'il n'y a pas un minimum de justice. Et cela nous mène à la dernière question que je souhaite soulever là, c'est la question de l'impunité. Les négociations qui se déroulent à Genève aujourd'hui deviennent de plus en plus des négociations pour les négociations, ce qui ressemble un peu au processus de paix entre guillemets entre Palestiniens et Israéliens, c'est-à-dire on se réunit mais cela ne change rien au niveau de l'occupation. On négocie, mais la colonisation se poursuit. On négocie, mais l'État palestinien n'a aucune chance d'émerger. Et là, dans le cas syrien, ce qui doit être une transition politique, ça fait depuis 2012 qu'on l'évoque, mais aucune transition n'est envisageable. On parle de libération des prisonniers et des détenus. Ils ne le sont pas libérés. Et on voit les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch, qui évoquent presque un génocide dans les geôles du régime Assad. Il n'y a pas de réaction ferme par rapport à cela. On parle depuis 2014 de la nécessité de lever les sièges qui affament et affaiblissent des centaines de milliers de civils syriens. Les sièges ne sont pas levés, ils se poursuivent. Donc, on négocie, on se rassemble. Les mêmes forces que les Russes qualifiaient de terroristes et bombardaient en disant que l'armée libre n'existe pas, les modérés n'existent pas, et ils les ont bombardés pendant plus d'un an. Les Russes, après, les ont reconnus comme des représentants légitimes des modérés syriens et ils les ont invités pour négocier. Mais ils maintiennent en même temps un bombardement sur les zones que ces mêmes modérés invités à négocier contrôlent. Donc, on rentre dans un processus politique qui peut se prolonger avec la fragmentation du territoire que j'ai décrit, avec des combats là et là, sans inquiéter le régime Assad sauvé par les Russes et les Iraniens. Et tout le monde attend maintenant ce que Trump va décider. Est-ce qu'il va affronter les Iraniens ou pas? Qu'en est-il de sa nouvelle politique envers la Syrie? Donc, cette incertitude va régner pendant quelques temps, avec les Russes qui capitalisent politiquement sur les succès militaires qu'ils ont réussi à avoir. Et l'impunité règne encore une fois, l'impunité totale, parce qu'on ne parle pas encore de tribunaux spéciaux, on ne parle pas de la Cour pénale internationale, on ne parle pas des mesures de justice qui doivent accompagner la transition politique qui reste théorique. Oui, donc la question de l'impunité n'est pas à l'ordre du jour, et ça, c'est à mon avis extrêmement dangereux pour l'avenir de la Syrie, pour la réconciliation et pour la lutte contre le terrorisme, contre l'extrémisme, qui se nourrit à travers la victimisation, les discours de victimisation qui sont nécessaires pour recruter. Mais même si c'est une propagande qu'utilisent les nihilistes ou les extrémistes, la victimisation, elle est réelle. Le droit international qui est bafoué est ce qui a été fait le plus en Syrie depuis 2011. Et donc, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui restent impunis, ça veut dire plus de possibilités, de problèmes et de conflits dans le futur.